Béni soit le Seigneur. Amen. Lui qui écoute la prière. Et nous avons auprès de lui toujours cette assurance d'être reçu, entendu, plus qu'entendu, écouté. Il nous écoute. Il prend soin, il œuvre, il est fidèle. Il nous associe à son œuvre par la prière et il agit, merci Seigneur, béni soit son nom, il agit avec nos prières. Amen. Pour ce soir, on va continuer je crois que ça ne marche pas parce que le PowerPoint, tu l'as mis en diaporama déjà ? Et il faut que tu l'éteignes, tu le fermes, et il faut juste que tu l'ouvres, mais ne pas le mettre en diaporama. C'est moi qui vais... Normalement, ça va marcher comme ça. Non, il faut le fermer complètement. Il faut tout éteindre. Ah voilà, ça y est. Eh ben ça y est, c'est parti. Ah, on a un petit décalage. On va y arriver. Vous êtes là jusqu'à 23h, hein, ça va, hein ? Ça va, 23h, c'est pas exagéré, en fait. Non, bon, attention. Chiche. T'as tout éteint ? Allez, c'est bon. Maintenant, c'est moi qui envoie. Et normalement, comme tu m'as montré, avec ça, voilà. Et là, je prends la main. C'est parfait. Merci beaucoup. Voilà, c'est juste une petite subtilité pour le lancement. Vous voulez bien ouvrir avec moi, s'il vous plaît ? Le premier livre de Samuel. On ouvre ce soir le premier livre de Samuel au chapitre 3, verset 1er. Ce soir, pour ne pas faire comme d'habitude, on va terminer par la méditation. J'ai laissé chacun, les uns et les autres, prier, intercéder, louer le Seigneur. Et comme ça, on ne fait pas toujours pareil. Et puis, on termine par la méditation, puis on partira avec la parole. Vous savez que dans notre thématique « Enseigne-nous à prier », la semaine dernière, nous avons insisté sur le fait que prier, c'est parler à Dieu. La prière nécessite des mots. Prier à haute et intelligible voix. Prier, ce n'est pas seulement penser à Dieu. Ce n'est pas seulement se recueillir. Prier, c'est parler. Parler à Dieu avec des mots. Nous avons besoin, ce n'est pas pour Dieu parce qu'ils sont de nos cœurs, c'est pour nous. Nous avons besoin de mettre des mots sur des situations, sur des blessures, sur des besoins, peu importe, sur des sentiments, nous avons besoin de mettre des mots. C'est pédagogique, Dieu le veut ainsi. C'est pour nous empêcher de nous enfermer dans n'importe quelle forme de blessure, dans n'importe quel besoin, pour ne pas nous enfermer, c'est pédagogique. Des mots formulés. Et la prière, elle est formulée, elle est audible, prier à haute et intelligible voix. Et vous allez peut-être me dire ce soir, Stéphane, tu sais vraiment pas ce que tu veux, parce que je vais aussi vous dire ce soir que prier, c'est aussi savoir se taire et écouter. Parce que la prière est en réalité un dialogue. J'ai besoin de parler à Dieu, mais j'ai besoin aussi de savoir par moments ne pas parler et d'attendre de sa part là où les réponses nécessaires. Et on va regarder ce texte de 1 Samuel chapitre 3 pour illustrer ce grand principe. Savoir se taire et écouter, oui, c'est aussi savoir prier. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie lui répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et Samuel retourna se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, allant vers Élie, et dit « Me voici, tu m'as appelé. » Élie répondit « Non, je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. On va aller aussi au verset 19 et au verset 21. Je passe sur la nature des révélations que le Seigneur apporte à Samuel dans un contexte qui va être particulièrement douloureux et tragique. Ce n'est pas ce contexte qui va alimenter notre méditation ce soir, c'est le principe et c'est le progrès, la maturité spirituelle de Samuel. Verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Verset 21, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Ce qui est intéressant ici, au-delà du contexte, même s'il est vrai que le Seigneur va apporter au jeune Samuel des révélations qui sont effectivement douloureuses au sujet de Élie, de ses fils, de ce qui va se passer. Samuel est appelé par Dieu dans un contexte de crise, dans un moment extrêmement difficile. L'arche va être prise par les Philistins, le peuple va être dans la défaite. Ophni et Phiné, qui étaient des hommes pervers au service de l'Éternel, mais des hommes pervers, vont mourir pendant cette invasion des Philistins. L'arche de Dieu va être prise, la femme de Phiné va accoucher troublée par les mauvaises nouvelles, et dans ce moment-là, elle va donner naissance à un fils, alors que son mari est mort et que Élie est mort à la renverse quand il a appris que l'arche de Dieu était partie, et elle va appeler son fils Ichabod, qui signifie « la gloire de l'Éternel est partie ». Parce que l'arche a été prise, elle a été emmenée à Asdod par les Philistins. Et c'est dans ce contexte extrêmement tragique, ça nous montre que, effectivement, une fois de plus, les circonstances n'étaient pas favorables, elles étaient même très loin d'être idéales, pour que le Seigneur demande à un jeune homme d'être attentif et puis qu'il lui communique ce qu'il voulait lui communiquer, et que surtout Samuel puisse grandir. Mais Samuel a grandi et a pris une dimension spirituelle, même dans un contexte qui était effectivement tragique. Ce qui me fait dire une fois de plus, bien aimé, les circonstances sont une chose, mais ce qui va déterminer notre qualité de vie, ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas notre environnement familial ou ecclésial ou autre, ce sont nos prises de position et notre obéissance avec le Seigneur, notre vie d'intimité et de piété avec lui. Et c'est ça qui est déterminant, même dans le pire contexte. Samuel a vécu de belles choses avec Dieu et il a été appelé par Dieu et il a grandi, il a progressé. Ce qui va principalement m'intéresser ce soir, c'est que là, dans cette jeunesse de Samuel qui va progresser, il y a pour nous une image, effectivement, du manque de maturité spirituelle et du besoin de progrès. Il y a ici, pour Samuel, et c'est une image pour nos vies chrétiennes, ces moments où nous sommes, comme Samuel, nous sommes dans le temple, c'est-à-dire là où se tient la présence de Dieu. Samuel est dans le temple, comme bien des bien-aimés, des frères et sœurs, se trouvent dans ce corps spirituel miraculeux qu'est l'Église. On se trouve dans le corps. S'il était dans le temple, il était à proximité de l'arche de Dieu. L'arche de Dieu symbolise, on est d'accord, la présence de Dieu. Il était à proximité de la présence de Dieu. Il a tout dans ce contexte. Et bien aimé, combien parfois, les uns et les autres, nous pouvons être effectivement dans le temple, à proximité de la présence de Dieu, et pourtant, il nous est dit qu'il était au service de l'Éternel, et parfois dans nos églises, on a même des gens bien aimés, sauvés, de bonne volonté, sincères, mais qui sont au service de Dieu. Pardonnez-moi, je vais faire un parallèle devant le pasteur. Il était au service, mais devant Élie. Il ne connaissait pas personnellement et intimement la voix de Dieu en lui et pour lui. Il ne connaît que la voix d'Élie. Tout ce que Samuel connaît, et c'est là qu'il y a une image pour nous de la jeunesse spirituelle et d'un besoin de croissance spirituelle, un besoin de maturité, tout ce qu'il connaît de Dieu, il le connaît de parce que Élie lui a dit. Il manque une dimension personnelle de connaissance. Quand il nous est dit qu'il ne connaissait pas la voix de Dieu, le verbe en hébreu « yada » qui signifie une connaissance pratique, une connaissance personnelle, intime et pratique. Samuel est dans le temple, il est à proximité de l'arche, mais quand il entend son nom qui est appelé, son premier réflexe, une fois, deux fois, trois fois, c'est d'aller systématiquement devant Élie et lui dire « mais tu m'as appelé ». Et Élie lui dit par trois fois, non, je ne t'ai pas appelé. Et Élie, qui est malheureusement, on va le dire ainsi, un leader, un pasteur rétrograde, en perte de vitesse, qui sait que ses jours sont comptés et qui finira mal, malheureusement, va quand même avoir ce soubresaut de bon sens, à un moment de comprendre, de dire, puisque la lampe de l'Éternel n'est pas éteinte, le Seigneur est en train de susciter une génération nouvelle. Moi, Élie, je sais ce que j'ai manqué. Malheureusement, je ne me repens pas. Malheureusement, je ne change pas. Malheureusement, comme tant d'autres dans l'Écriture, je vais mal finir. Et malheureusement, en fin de course, il va mal finir. Mais il a compris que l'œuvre de Dieu n'était pas terminée et que le Seigneur voulait donner à une nouvelle génération une connaissance de sa personne. Et on sait bien évidemment quel homme de Dieu. Samuel a été, il a été prophète et juge en Israël. Mais là, à ce démarrage, alors qu'il y a toute la bonne volonté, la sincérité de Samuel, c'est une image de manque de maturité spirituelle pour nous. Il n'a pas de connaissance personnelle, il n'a pas de révélation personnelle. Il est au service de l'Éternel, mais devant Élie. Il ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélé. Il n'avait pas de contact direct avec Dieu et il n'avait pas cette dimension de révélation dans son cœur, dans l'intimité, dans son être intérieur. Il sert Dieu, amen, mais sa seule référence, c'est Élie. Il n'a pas de connaissance intime de la voix de Dieu. Trois fois Dieu l'appelle, vous l'avez lu avec moi. Trois fois Dieu cherche à amener une communion, une intimité, à apporter des révélations dans son âme. C'est Dieu qui, dans sa grâce, évidemment, en prend l'initiative, bien sûr, parce qu'il veut cette communion. Mais à chaque fois, Samuel va voir Élie, parce que pour lui, la seule personne qui est capable de lui dire quelque chose au sujet de Dieu, ben, c'est le pasteur. C'est Élie. Beaucoup de frères et sœurs, dans bien des églises, manquent, combien malheureusement manquent, de cette connaissance personnelle, d'une dimension de révélation, d'un contact réel de cœur là avec le Seigneur, qui ne connaissent malheureusement le Seigneur que par des intermédiaires. Je ne peux pas connaître Dieu simplement au travers de ce que mon pasteur en dit, de ce que mon mari en dit, de ce que ma femme ou de ce que tel frère ou telle sœur dans l'église ou de ce que tel pasteur à succès sur Internet dit que, etc., etc. Je ne peux pas vivre simplement d'intermédiaire. Samuel est dans la maison de Dieu, mais ignorant du Dieu de la maison de Dieu. Il est dans le temple, dans cette communion fraternelle, mais ils ne rencontrent pas Dieu personnellement. L'arche de Dieu est là, mais il n'y a pas de communication. C'est un comble. Être si proche physiquement et ne rien partager, ne rien vivre. Alors Dieu, dans sa grâce, l'appelle, et il l'appelle encore. Et il faut bien comprendre à quel point cet appel de Dieu est important, cet appel est pressant et il est réitéré. Parce que Dieu veut absolument, mon frère, ma sœur, établir un contact personnel avec toi et t'emmener dans des cœurs à cœurs, dans des partages où tu vas vraiment apprendre à connaître la voix de Dieu dans ton être intérieur pour toi personnellement. Personnellement. Et pour vous dire à quel point c'est important, que l'appel de Dieu est tellement pressant et réitéré, c'est pas seulement parce qu'il y est revenu par trois fois. C'est parce que Dieu ne lui a pas dit « Samuel ». Dieu lui a dit, Dieu l'a appelé « Samuel, Samuel ». Frères et sœurs, il n'y a que sept personnes dans toute l'Écriture que Dieu a appelé deux fois par leur nom, tellement ce qu'il avait à leur dire était important. Quand Dieu appelle, quand il parle, il appelle la personne par son nom, ce qui est déjà extraordinaire, de la connaître comme il la connaît. Seulement à sept reprises, le Seigneur va appeler une personne deux fois par son nom pour lui dire « Attention, ce que j'ai à te dire est un principe fondamental, j'ai des choses extrêmement importantes à te partager. » Et derrière ces hommes qui ont été appelés deux fois, ou ces femmes qui ont été appelées deux fois par leur nom, il y a des principes spirituels qui sont extraordinaire. Dieu a dit, Abraham, Abraham, ne porte pas ta main sur l'enfant. Dieu se pourvoira lui-même pour le sacrifice. Moïse, Moïse, deux fois. Qui va aller libérer mon peuple? Samuel, Samuel. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera bien dur de régimber contre les aiguillons. Marthe, Marthe. Tu t'agites, tu t'inquiètes, tu es surmené pour bien peu de choses. Une seule chose est nécessaire, l'écoute de ma voix. Et seulement, tiens, un autre qui me vient. Simon, Simon. Il ne lui a pas dit Simon, il ne lui a pas dit Céphas, il n'a pas dit Simon-Pierre. Il a dit Simon, Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et Samuel fait partie de ces sept personnages dans l'Écriture que Dieu a appelés deux fois par leur nom. Samuel, Samuel, tellement ce que ça nous montre à quel point le Seigneur est précis et à quel point il insiste quand il dit « Je veux absolument une communion personnelle avec toi. Je veux un partage de cœur. Je veux te parler à toi. » Personnellement, Samuel, et je veux que tu connaisses ma voix. Pour l'instant, tu es dans une jeunesse spirituelle qui ne te permet pas encore, mais tu es à proximité de l'arche, vaut mieux être là que loin. Tu es dans le temple, vaut mieux être là qu'à l'extérieur. Mais pour l'instant, tu ne me connais pas encore comme tu dois me connaître. Et c'est vers ça que je veux t'emmener. Vous savez, le Seigneur, frères et sœurs, si le Seigneur nous a sauvés, c'est parce qu'avant toute chose, il veut, il a soif d'une communion intime, personnelle, d'un partage de cœur avec chacun de nous. Lorsque le Seigneur a établi ses disciples, lorsque Jésus a établi ses disciples, il a passé, nous disent les évangiles, il a passé une nuit entière en prière. Et ensuite, il a reçu par l'Esprit le nom des disciples et il a nommé ses disciples. Et il nous est dit, Marc chapitre 3, verset 16, un passage magnifique, « Lorsque Jésus, après avoir passé une nuit à prier, Jésus établit, il choisit des disciples, Jésus en établit 12 pour les avoir près de lui. » Ça, c'est le sens du discipulat. C'est la première chose que Dieu veut de toi. C'est la première chose que Dieu veut de moi. Jésus établit 12 disciples. Il les établit pour les avoir près de lui. Et ensuite, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir et de chasser les démons, etc. etc. Mais Jésus a établi pour avoir près de lui. Vous savez, bien-aimés, on a souvent l'impression d'attendre le Seigneur. En réalité, ce n'est pas nous qui l'attendons. C'est lui qui nous attend. C'est lui qui nous attend plus près. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous attire. C'est lui qui est obligé de persévérer. Des fois, on dit « Ah, je persévère, Seigneur !» Ouais, je suis d'accord. La persévérance, c'est biblique. Il y a des aspects dans lesquels nous persévérons. Amen. Mais vous avez remarqué le nombre de fois où le Seigneur, il est obligé de persévérer avec nous ? Et le mieux du mieux, ben, c'est qu'il le fait. Amen. Parce qu'il nous aime. Et il insiste. Et il l'a fait pour Samuel. Et il le fait pour nous. Alors, je sais, bon, je me doute que vous, il n'a pas été obligé d'insister beaucoup pour vous. Mais je peux vous dire que pour moi, le Seigneur, il n'a pas insisté que 3 fois. Hein. Ça a été beaucoup plus que 3 fois. Vous pouvez sourire, hein, Jésus vous aime. Et quand Samuel va comprendre enfin à quel point il a des choses à partager, des choses belles et glorieuses à partager, même si le Seigneur, je le sais, ne lui a pas dit ce qu'il avait envie d'entendre. Et quand le Seigneur me parle, il ne me dit pas nécessairement ce que j'ai envie d'entendre, il me dit ce que j'ai besoin d'entendre. Mais quand enfin il a pris conscience de la valeur de la parole, cette grâce que Dieu voulait lui faire, d'avoir un cœur à cœur avec lui, des échanges de partage personnel avec lui, quand enfin il va réaliser le privilège que Dieu lui fait de l'appeler lui personnellement, il va se rendre disponible, il va être disposé. Et ici, on voit dans Samuel un serviteur, un jeune serviteur. Vous comprenez bien, quand je dis jeune, on parle de spirituel, on ne parle pas forcément d'âge. Un serviteur, vous, moi, un serviteur qui va se montrer disposé, attentif et réceptif, et qui va formuler une prière extrêmement courte, mais tellement pleine de bon sens spirituel. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Il va falloir que j'attende combien de temps ? Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Et avoir une écoute attentive, être réceptif à ce que Dieu veut nous dire, bien sûr, c'est pas seulement l'instant d'une réunion, d'un bon moment, prière, culte ou autre, ou à un moment, voilà, c'est vraiment une façon d'être, c'est un principe, c'est un mode de vie, c'est une façon de fonctionner. Je suis attentif. La Bible dit, c'est dans le livre de Job, je vous ai mis ça, c'est très connu ce texte, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que le problème, c'est que l'homme n'y prend pas garde. L'on n'y prend pas garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Job 33, 14, mais l'on n'y prend pas garde. Et en réalité, la vie de Samuel, il a appris ce que signifiait une vie en permanence à l'écoute de Dieu. Samuel grandissait et il ne laissait tomber à terre aucune parole de Dieu. Je ne sais pas vous, hein, mais moi je peux vous dire le nombre de paroles qui sont passées à la trappe. Heureusement que Dieu est bon et fidèle et qu'avec grâce et amour, il est revenu et qu'il m'a dit « Non, il faut qu'on reparle de ça. Il faut qu'on reparle de ça. Oui, mais Seigneur, moi je veux guérir moi. Mais je veux qu'on reparle de ça. » Parle, ton serviteur écoute. Si la prière, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, a besoin d'être formulée à intelligible voix, prier, ce n'est pas nécessairement déverser un flot de paroles. Prier, ce n'est pas forcément de longueur. Jésus dit bien, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de multiplier des paroles, ils seront mieux exaucés, etc. Et souvent, au nom de la persévérance, on a cru qu'il fallait parler encore. la prière, dans la prière, il y a aussi cette disposition de cœur, cette attitude de cœur qui est permanente, pas seulement dans la prière, parce que je vais vous montrer des exemples concrets, c'est à chaque moment de ma vie où je vais avoir cette attente, cette réceptivité, où je suis disposé à avoir un dialogue, où je sais que le Seigneur peut me parler de n'importe quelle façon, à n'importe quel moment, au sujet de n'importe quel besoin. Mais pour écouter, il faut développer, déjà il faut savoir se taire, et puis il faut développer une oreille attentive. Dieu parle comme il veut, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alors évidemment, je vais vous donner quelques exemples, mais l'essentiel de la voix de Dieu se fait évidemment entendre par sa parole. 90% de ce qui nous est dit de la part de Dieu, ce n'est pas un chiffre pour un chiffre, hein, 90%, hein, c'est une image pour vous montrer la proportion. 90% de ce que le Seigneur a à nous le dit par sa parole, évidemment. Mais le Seigneur, c'est à nous de consacrer à cette parole le temps, l'attention et l'écoute nécessaires et qu'elle mérite. Ça, c'est à nous de le faire. Et quand nous prions, c'est indispensable de savoir prier avec la Bible. La Bible, elle alimente mes prières. La Bible, elle oriente mes prières. Plus je suis profond avec la parole, plus ma vie de prière est large et plus mon spectre de prière va me faire sortir de cette impression qui malheureusement n'est pas une impression, où parfois j'ai quand même bien l'impression de répéter toujours un peu les mêmes choses. Et je suis là, Seigneur, je voudrais, mais je ne sais pas. La parole alimente ma vie de prière. Le Seigneur, parfois, nous parle par des rhémas. Un rhéma, c'est une parole de l'Écriture qui va se détacher du logos. Le logos, c'est la parole générale. Et puis, une parole va se détacher et puis va vraiment percuter notre cœur de façon particulière, même si on la connaît et qu'on l'a lue 5 fois, 10 fois, 15 fois dans notre vie. Quand j'étais en Normandie, les premiers mois que j'avais passés dans l'église de Caen étaient tellement difficiles que j'ai eu une énorme tentation d'arrêter le ministère, de tout claquer, d'envoyer tout balader, de retourner dans la police. Et puis comme ça se passait pas bien dans l'église et que ça ne se passait pas comme moi j'estimais que ça devait se passer, au rythme où j'estimais que ça devait se passer, j'ai commencé à avoir de l'agacement et ça commençait à me brûler, ça commençait à me gratter à l'intérieur là. Et puis des sentiments mauvais étaient là et j'étais irrité. Puis vient un jour une pastorale, je vais en pastorale avec les frères. Alors Stéphane, comment ça va à l'église de Caen? Oui, ça va, merci frère, alléluia. Ça va? Oui, par la grâce, ça va, amen. Il est bon le Seigneur, hein, alléluia, en avant, ouais, super. Et puis là, il y a un frère qui ne savait rien du tout, il était juste de passage. Puis il me dit, mes frères, le Seigneur a changé mon message, on va faire une lecture dans le livre du prophète Jonas au chapitre 4. Et là, le bon pasteur stagiaire que j'étais, qui avait mis sa cravate et son costume à l'époque, j'ouvre, et là, mes yeux tombe sur un verset, et là ça se détache et ça se percute en plein cœur. Et je lis, et j'entends une voix tellement douce, mais indiscutable en moi qui se grave, et je lis. Fais-tu bien de t'irriter? Ah, je me suis repenti pendant tout le temps de la pastorale. J'ai dit, Seigneur, pardon, pardon, pardon. Le rhéma, une parole qui se détache. Mais il faut être attentif, une parole qui monte en nous, qui s'installe dans le cœur, une évidence, une conviction. Un jour, en quittant ma maison à Fontenay-Trésigny, quand j'étais en Seine-et-Marne, je vendais ma maison, et puis j'avais fait évaluer d'après le marché, ma maison elle valait tant. Et puis il y a des gens qui se présentent et qui me disent « Ah monsieur, voilà votre maison, ok d'accord, super, écoutez, donnez-moi vos coordonnées, prenez les miennes, on serre la main, ok, on est d'accord à ce prix-là, allez, on y va, et on va faire le compromis de vente chez le notaire, on envoie les documents, et dès que le notaire nous dit, on y va. Mais entre-temps, en 2 jours, il y a un collègue de la police qui me dit, Stéphane, j'ai appris que tu vendais ta maison. Tu as conscience du secteur où tu vends, c'est super recherché, etc., etc. Combien tu la vends ? Je dis, je la vends tant. Il me dit, ta maison, elle est mal évaluée. Moi, je t'en donne 10 000 euros de plus de ta maison et puis on va chez le notaire ensemble, etc. Puis moi-même, je me dis, ben, 10 000 euros quand même, finalement. Puis l'autre, on n'a rien signé. Je lui ai juste dit, ok, je rappelle le monsieur. Puis je me souviens, j'étais à la sortie de l'école, j'attendais ma fille. Et puis j'appelle le monsieur. Et puis je lui dis, bah écoutez, monsieur, je suis désolé, mais voilà, je pense que, vous comprenez, j'ai mal évalué ma maison. Le monsieur, il me pourrit. Il me dit, qu'est-ce que c'est que ces attitudes, monsieur ? Vous n'avez... C'est marrant, comme des fois, c'est les inconvertis qui nous... Ils sont plus droits que les chrétiens. Il me dit, ouais, c'est inadmissible, monsieur, vous n'avez aucune parole, vous n'êtes pas un homme d'honneur, vous n'êtes pas un homme droit, machin, il me pourrit. Je dis, mais je suis désolé, vous comprenez, 10 000 euros quand même. Et puis il me dit, non, monsieur, je veux rien savoir, on avait une parole, vous n'avez pas de parole, vous n'êtes pas un homme de confiance, monsieur, je ne vous salue pas, merci, au revoir, monsieur. Et il raccroche. Puis moi, je suis là, je me dis, oh, quand même, 10 000 euros, c'est 10 000 euros quand même, elle a été mal évaluée, c'est pas de ma faute, il pourrait comprendre, qu'est-ce qu'il ferait à ma place, blablabla. Puis quand je me calme et que je me tais, là, je sens une pensée qui monte en moi. Une voix douce. Toujours. Mais ce n'est pas la peine de discuter. Il n'y a pas de discussion possible. Et là, parce que le Seigneur avait besoin de me libérer de l'emprise de l'argent avant de m'envoyer dans le ministère, le Seigneur me dit, c'est qui ton Dieu ? C'est moi ou c'est Mammon ? Et j'entends ça dans mon être, fort en moi j'entends. C'est moi ou c'est Mammon ? Là je me mets à pleurer, je dis Seigneur, je suis un fou. J'ai plus confiance en 10 000 euros qu'en toi Seigneur. Je dis Seigneur, pardon. Je rappelle le monsieur, je dis écoutez monsieur, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. On va au compromis de vente, etc. Il me dit c'est le prix là, il n'y aura pas de... Je dis monsieur, on y va au prix. 10 000 euros, une parole. 10 000 euros. Mais vous savez quoi ? Dieu est tellement grand que mes 10 000 euros plus tard, il a su pourvoir de différentes façons. Un réma qui monte, le fait d'être attentif, de vouloir être obéissant, de dire Seigneur, parle-moi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Et le Seigneur peut parler par des frères, il peut parler par des inconvertis, il nous parle par des circonstances. Nos vies, bien-aimées, quand nous passons par des échecs, le Seigneur parle par la souffrance. Le Seigneur peut parler par des échecs. Simon-Pierre a dû apprendre lorsqu'il a renié Jésus dans son échec, sa circonstance lui a révélé. Et quand de loin, après avoir renié Jésus, il a entendu le coq chanter et de loin il a croisé le regard d'amour de Jésus, combien il a dû être brisé à l'intérieur. Et là, le Seigneur nous parle d'une façon, d'une autre. Le Seigneur peut nous parler par un chant. Il nous parle par une prophétie. C'est à nous d'être attentifs, c'est à nous d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles. Ce qui est important, c'est de développer une oreille attentive et de voir toujours ce que le Seigneur veut me dire. Mais c'est à nous d'être attentifs et de comprendre la valeur de sa parole. Parce que autant Dieu se plaît à parler, autant il faut comprendre que Dieu n'est pas un moulin à parole. Des bien-aimés qui n'entendent jamais la voix de Dieu. Mais des bien-aimés qui, toutes les semaines, tous les 4 matins, ont entendu le Seigneur leur dire un truc sur des trucs les plus improbables du monde. Comprenez qu'il y a un équilibre quand même. Dieu n'est pas un moulin à parole. En ce temps-là, la parole était rare. Pourquoi ? Parce que Samuel, comme nous, frères et sœurs, nous apprenons au fur et à mesure de notre parcours, nous apprenons à quel point la parole de Dieu, chaque parole qui vient de ta bouche, le psalmiste dit, plus précieuse pour moi, plus précieuse que l'or et l'argent, et la parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Chaque parole est précieuse et Autant Samuel que nous, en tant que disciples, nous sommes appelés à la connaître et à en apprécier, à en savourer la véritable valeur. C'est un signe de maturité spirituelle quand nous sommes prêts, peu importe ce que le Seigneur a à nous dire, peu importe ce qu'il a à nous dire, peu importe ce qu'il a à nous dire, Seigneur, je veux entendre ta voix. J'étais, il y a bien des années, un conflit malheureusement s'était créé avec une personne chrétienne. Et puis, alors que ce conflit commençait à prendre des proportions, je savais tout le mal qu'elle pensait de moi. Puis moi, je priais pour cette sœur, je disais, Seigneur, non, fais-lui grâce, Seigneur, c'est pas possible, Seigneur, 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 Seigneur. Et là, une voix douce, mais non négociable, indiscutable, une voix en moi monte et me dit, demande-lui pardon.
Quoi? Comment? Seigneur, je veux bien prier pour elle, mais tu sais qu'il y a eu bam, 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 bam. Et moi, j'aligne les 90% de tort. Et le Seigneur, parce qu'il aime bien gratter le fond de nos cœurs, parce qu'il veut qu'on soit comme lui, le Seigneur me dit, oui, tout ça, c'est vrai. Mais tu vois là, juste ça. Demande-lui pardon. Et ça, c'est l'issue de la crise. Le Seigneur, ça n'intéresse pas que tu aies 95% raison. 99% raison, s'il y a 1%. Mon frère, ma sœur, va voir qui tu dois voir, même pour 1%, parce que c'est probablement l'issue de la sortie de la crise. J'ai mis 15 jours, têtu, orgueilleux que je suis, 15 jours pour prendre mon téléphone. Allô? Oui, c'est Stéphane. Tu sais, je repense juste à ce point-là. Tu sais, ma sœur, je te demande pardon. Et à partir de ce moment-là, tout est rentré dans l'ordre. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et le Seigneur ne nous dit pas ce que nous avons envie d'entendre, vous l'avez compris, il nous dit ce dont nous avons besoin d'entendre. Et Dieu parle aussi comme il veut, quand il veut. C'est à nous d'être attentifs, être attentifs à sa voix, peu importe le message, peu importe le moyen, peu importe le quand, peu importe le comment. Ça fait partie de notre progression et de notre maturité spirituelle aussi dans la prière. Et puis, là, on a aussi ces merveilleux versets 19, versets 21. L'Éternel continuait à apparaître, l'Éternel continuait à se révéler. Samuel ne laissait tomber aucune des paroles, verset 19, et c'est le verset 21 que je vous ai mis ici. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo et il se révélait par la parole de l'Éternel, ce qui signifie, je vous l'ai mis ici comme par hasard, lieu de repos. Parce que quand on a réellement appris à écouter Dieu et qu'on a cette communion, cette intimité, ce partage de vie, ce partage de cœur avec sa parole, il y a une dimension de joie, une dimension d'amour, une dimension de paix, une dimension de repos qui vient s'installer dans nos âmes, peu importe ce que Dieu a dit, peu importe ce qu'il m'a demandé, mais parce que j'ai été attentif, parce que j'ai obéi. Parce que j'ai fait ce qu'il m'a demandé, vient s'installer une dimension de paix et de repos. Les circonstances sont catastrophiques. Le peuple entier est dans la défaite totale. Ses leaders sont dans la défaite totale. L'arche de l'alliance a été emportée. Maintenant, le nom qui résonne, c'est Ichabod. La gloire de Dieu est partie. Pardonnez-moi, ils sont tous à la ramasse. Mais béni soit Dieu, le Seigneur a trouvé un homme qui a eu cette prière pleine de bon sens. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Et il a été un modèle, un prophète et un juge pour ramener ensuite le cœur du peuple. Béni soit Dieu. Voilà tout ce que Dieu peut faire avec des hommes et des femmes, peu importe leur environnement, qui savent dire, Seigneur, parle, je t'écoute. Et si c'est ce que nous faisons, le Seigneur se servira de nous avec gloire et avec puissance. Amen. Soyez bénis, on se recueille ensemble et on termine ces moments ensemble par la prière. Nous te bénissons, Seigneur, merci. C'est une telle grâce, Seigneur, qu'un Dieu aussi grand, puissant que toi, daigne, Seigneur, nous partager son cœur, nous partager sa vie, nous partager sa parole, nous partager ses plans, nous partager ses décisions, Seigneur, et nous impliquer, non seulement par la prière, par l'intercession, mais nous impliquer aussi par l'obéissance. Seigneur, nous impliquer dans ce que tu veux et peux faire, Seigneur, pour un peuple, pour une génération, pour ceux autour de nous qui peut-être sont, Seigneur, dans le marasme, parce que peut-être on a constaté les uns et les autres, dans bien des domaines, on a constaté, Seigneur, des Ichabod, on a vu tellement de fois ta gloire disparaître, Seigneur, parfois de certaines vies, de certaines situations, et malheureusement tu n'as pas été glorifié, ta gloire a été outragée, Seigneur, et quand bien même autour de moi, autour de mes bien-aimés ici ce soir, il y a des situations, Seigneur, il y a peut-être des membres de famille, Seigneur, qui sont dans des situations tragiques, catastrophiques. Seigneur, je te bénis de ce que ça ne t'empêche pas de te révéler, de nous appeler, de nous attirer, Seigneur, et de nous communiquer les paroles nécessaires pour la vie, la restauration, le pardon, la réconciliation, la consolation, la guérison de ceux qui sont autour de nous. Seigneur, fais de nous, Seigneur, des disciples matures, fais de nous des Samuel qui ont cette oreille développée, ouverte, attentive, qui savent, Seigneur, reconnaître ta voix dans tout lieu, dans toutes circonstances et surtout par ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis chacun de mes frères et sœurs. Fais grâce à mes bien-aimés. Raccompagne-nous, je te prie, Seigneur, dans nos demeures. Que nos cœurs soient toujours réceptifs et que nos cœurs soient gardés dans la pensée et dans la communion de Jésus. Amen.